fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.
Madame Rosière, bonjour.
Bonjour.
Et par conséquent, on a déjà évoqué quelques sujets, mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, de connaître de votre part, c'est un peu ce qui s'est passé, justement, rétroactivement. Et alors, bien sûr, les choses sont toujours, malheureusement, on peut dire, pas vraiment folichonnes. On va peut-être revenir sur ce qui a marqué la France, c'est-à-dire Charlie Hebdo.
Oui, ça a été un moment fort et pas uniquement, bien sûr, pour la France qui a été touchée directement. Mais depuis Bruxelles, puisque nous étions, je me souviens très bien du moment où la nouvelle est tombée, nous étions en réunion de groupe à Bruxelles, cette journée de janvier, en fin de matinée, et nous étions en train de, particulièrement les députés socialistes et radicaux français, en train de voir la nouvelle tomber sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et donc, l'une de nous a pris la parole en réunion de groupe pour expliquer ce qui était en train de se passer. Quand nous avons vraiment compris l'ampleur du drame qui était en train de se jouer. Et ça a été, bien sûr, un moment terrible, mais aussi un moment assez fort, où vraiment c'est matérialisé l'expression d'une solidarité européenne. Dans l'émotion, dans l'immédiat, les divergences, les clivages tombent. Et c'est cette expression de grande solidarité que je retiens, bien sûr, avec la douleur et la tristesse. Nous étions tous en train d'évoquer ce que représentait pour nous le Charlie Hebdo, les victimes dont les noms nous étaient si familiers et si connus. Mais de tous nos collègues, ce grand recueillement, cette grande solidarité, cette présence, cette compassion à l'endroit de tous les Français, vraiment m'a beaucoup touché. Une manifestation spontanée s'est organisée le soir même devant le Parlement. La mobilisation du Parlement en tant qu'institution des institutions européennes dans les journées qui ont suivi. La présence à Paris pour la manifestation du 11 janvier des principaux dirigeants des institutions européennes. Tout ça, c'est un grand moment de solidarité européenne. Mais au-delà de ça, bien sûr, cette question la liberté d'expression, la liberté de la presse, du droit à la caricature, nous a amenés dans des débats qui se sont poursuivis. Et je dois dire que ça a aussi été l'occasion de toucher du doigt, mais je le savais déjà, mais de manière particulièrement sensible, que la laïcité telle que nous la concevons et telle que j'y suis attachée en tant que radicale de gauche est quelque chose qui est vécu de manière extrêmement différente en Europe. Et il y a aussi un travail pour faire comprendre notre conception de la laïcité, une laïcité qui n'est pas un combat des religions, mais justement la garantie que toutes les religions peuvent, au-delà des religions, que toutes les convictions, que la liberté de conscience est quelque chose d'intangible que nous tenons pour essentiel. Et donc expliquer que lorsque nous souhaitons maintenir les religions dans une forme de sphère privée, quand nous souhaitons empêcher les interférences entre les différentes expressions religieuses et l'expression du politique, ce n'est pas un combat contre les religions, mais bien un combat pour cette liberté de conscience, pour cette coexistence pacifique de l'ensemble des religions. Et les tensions, malheureusement, continuent à se faire jour, à être exacerbées. Et je pense que rappeler cette essence même de la laïcité, c'est travailler pour créer les conditions d'une coexistence apaisée de toutes les convictions et de toutes les croyances. J'avais été un petit peu isolée, puisque je m'étais exprimée contre la venue du pape en novembre, donc avant les attentats, à l'invitation du président du Parlement, considérant que l'interférence entre un chef religieux et les institutions politiques de l'Union européenne n'avait pas lieu d'être. Malheureusement, les événements ont renforcé ce besoin de laïcité et donc m'ont conforté dans l'engagement qui est le mien, puisque je suis coprésidente de la plateforme pour la laïcité au Parlement européen et que c'est cette parole pour justement cette séparation du politique et du religieux, pour le bénéfice mutuel du politique et du religieux que je porte au Parlement européen.
Et oui, donc là, effectivement, position douloureuse à soutenir, effectivement, et à défendre. Mais aujourd'hui, je crois qu'on parle tellement des migrants qu'on reproche parfois à l'Europe sa lenteur dans des décisions. Et comment pouvez-vous expliquer cela ?
Oui, alors, c'est vrai. La situation géopolitique qui se matérialise aussi et de manière dramatique par la situation et la situation sur le front de l'immigration exacerbe les tensions dans nos sociétés. Et on met souvent, trop souvent, sur le dos de l'Europe, sans savoir exactement de quoi on parle, la responsabilité de l'inaction face à cette situation humanitaire et géopolitique dramatique. Alors, je voudrais ici quand même rappeler un certain nombre de choses. La gestion de l'immigration, c'est une compétence qui incombe aujourd'hui et que aux États, et que les États veulent garder à leurs mains. L'Union européenne a son mot à dire. Elle s'est exprimée, Jean-Claude Juncker s'est exprimé au mois de mai pour appeler les États à la solidarité, pour appeler à une politique commune de gestion de l'immigration. Jean-Claude Juncker s'est encore exprimé hier sur ce même sujet pour appeler à une politique commune. Et je trouve un petit peu incompréhensible, j'aurais même tendance à dire malhonnête, mais de voir certains représentants d'États européens qui renvoient à l'Europe cette responsabilité-là, alors que c'est une responsabilité que chaque pays a voulu garder pour lui-même, avec des motifs de politique intérieure plus ou moins avouables, pour flatter un mouvement général très anti-immigration, mais qui simplement ne correspond pas à la réalité. Ce que propose l'Union européenne, ce qu'a proposé Jean-Claude Juncker, c'est la solution. Et je regrette que les États membres ne l'aient pas plus soutenu. Ce qu'il propose, c'est une solidarité européenne. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a 500 millions de citoyens européens, et si on regarde les flux migratoires, ils se comptent en centaines de milliers par an. C'est beaucoup, mais quand on rapporte ça à la population européenne, on n'est pas sur des. On est sur quelque chose qui, si on se donnait les moyens d'y faire face, de mettre en place des conditions d'accueil décents, pour éviter justement que la situation de précarité extrême dans laquelle se trouvent les migrants crée des conditions de trouble à l'ordre public qui font réagir les populations parce qu'elles se trouvent face à cette difficulté concrète. Donc mettre en place des moyens d'accueil décents, dignes de ce nom, au niveau européen, pour répartir la charge, encore une fois, une charge qui reste gérable, 500 millions, quelques centaines de milliers de personnes, on est sur quelque chose à laquelle l'Union européenne peut et doit faire face. C'est aussi un devoir moral. En face de nous, on a des personnes qui sont dans des situations de risque extrême, qui risquent leur vie, et c'est bien ce risque-là qui les pousse à prendre des risques encore plus grands au risque de leur vie. Malheureusement, les drames en Méditerranée nous montrent que ce sont des risques énormes qui sont pris par ces personnes-là pour essayer de trouver les conditions de leur subsistance. Donc nous avons ce devoir, nous avons la capacité et nous avons le devoir moral de faire face et de mettre en place donc, des conditions de l'accueil, des conditions du sauvetage en mer aussi. Ça a été fait, mais ça a été porté uniquement par l'Italie qui a décidé d'arrêter ses opérations. Aujourd'hui, c'est la Grèce. On connaît la situation économique de la Grèce par ailleurs, qui est confrontée à cet afflux de population. Donc l'Union européenne a les moyens de mettre en place des conditions du sauvetage en mer, et c'est une nécessité humanitaire. Il faut aussi créer des voies légales d'immigration. Il ne s'agit pas de ne mettre aucune condition, mais bien dissocier d'un côté ce qui relève de l'asile politique, des personnes qui sont en danger, et de migration économique. Nous avons besoin d'immigration, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. La dynamique démographique de l'Union européenne aujourd'hui ne peut se maintenir que parce que nous avons de l'immigration. Lorsqu'on regarde l'apport des populations immigrées à l'économie, toutes les études montrent que les populations migrantes apportent plus à l'économie qu'elles ne pèsent. Tout ce qu'on peut dire sur le caractère opportuniste vis-à-vis du système social des migrations, c'est de la contre-information, c'est un mensonge. La réalité de l'apport des populations immigrantes est totalement différente, elle est positive. Et ensuite, bien sûr, sur tous ces aspects-là, c'est la solidarité européenne qui doit prévaloir parce que, encore une fois, c'est ça l'essence. Rappelons-nous de ce qui fonde l'Union européenne, c'est de mettre en commun nos forces pour faire face aux épreuves. Nous sommes là face à une épreuve collective et c'est par la solidarité que nous trouverons des solutions.
Au départ, on en a plutôt fait, on va dire, un marché économique. Et c'est peut-être en cela qu'on peut aborder un autre sujet, qui est le sujet de la Grèce, qui fait tant de débats aujourd'hui encore.
Tout à fait. C'est d'une autre façon, la situation de la Grèce met en lumière la question du sens qu'on veut donner au projet européen. On a parfois critiqué les pères fondateurs de l'Union européenne en disant qu'ils avaient fait prévaloir l'économique sur le politique. Je pense qu'il faut pas, il faut se garder d'une réinterprétation anachronique de l'histoire. La construction européenne s'est faite dans un contexte de prospérité économique, mais aussi de reconstruction d'un échiquier politique après des conflits mondiaux particulièrement meurtriers. Bien sûr, il y a une question, la question de l'acceptation de cette intégration européenne quelques dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale était en question. Et donc, c'est l'idée de se dire que c'est par la création de la prospérité économique qu'on fait en sorte que l'Europe apporte la prospérité économique, qu'elle sera acceptée par les peuples, c'est plutôt une idée ingénieuse et pertinente. Maintenant, aujourd'hui, la situation a changé. L'intégration politique n'a pas suivi cette intégration économique, c'est vrai. Et c'est aujourd'hui ce dont nous supportons les conséquences, ce dont la Grèce supporte les conséquences. Là aussi, le déficit de solidarité est patent. Le produit intérieur brut de la Grèce, c'est moins de 2% du produit intérieur brut européen. C'est quelque chose... Prendre en charge la situation grecque est quelque chose qui est totalement à la portée des États et de l'Union européenne. Si une volonté politique en la matière aurait permis de juguler assez largement la situation et la crise en Grèce dès le début des années 2010. Ça n'a pas été le cas et donc cette crise a pris de l'ampleur. Là aussi, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la situation. La Grèce est dans une situation très particulière. C'est un pays dans lequel l'État est très faible, avec énormément d'évasion fiscale, avec une administration à constituer. Priver la Grèce de ses ressources économiques en lui demandant dans le même temps de constituer un État fort et une administration publique forte, c'est un petit peu contradictoire. Donc je pense que les décisions qui ont été prises sur s'agissant de la Grèce aujourd'hui, avec ces politiques d'austérité, vague après vague, qui plongent la Grèce et l'économie grecque dans une situation dramatique, dont elle mettra des années à se relever, est une aberration à la fois politique et économique. On exacerbe les antagonismes entre les peuples. Vous avez d'un côté l'opinion publique allemande qui est renforcée dans l'idée que on a vu quand même des choses affreuses hein, au printemps, dans l'idée que les Grecs sont des paresseux, que les Grecs sont des profiteurs, que enfin, il faut quand même voir ce que a subi la population grecque. On est sur 25% de diminution du PIB. Moins 38% pour les salaires, moins 30% pour les revenus des ménages, moins 45% pour les retraites. Donc on ne peut pas dire que le peuple grec sorte particulièrement bénéficiaire de cette situation et se trouve dans des conditions de profiter de quoi que ce soit. Dans le même temps, évidemment, en Grèce, cette situation économique est particulièrement douloureuse et aujourd'hui, l'Union européenne est uniquement dans le rôle du père fouettard. Donc on a réussi à éviter la sortie de la Grèce de l'Union européenne, mais pour moi, la rupture avec les politiques d'austérité n'est pas encore suffisamment importante et l'affirmation de cette solidarité européenne n'est pas assez importante. Cette rentrée va être cruciale, je pense, et j'espère vraiment que l'ensemble des dirigeants européens sauront retrouver le sens de la solidarité européenne.
Question brutale. A-t-on eu raison d'accepter la Grèce au moment où elle a présenté sa candidature ?
Là aussi, on va se garder d'anachronisme. En 81, lorsque la Grèce est entrée dans l'Union européenne, c'était quelques années après la fin de la dictature. en Grèce. Et l'idée était très claire, le but était très clair, c'était ancrer la Grèce dans la démocratie. À l'époque, vous savez, le ministre allemand des Affaires étrangères qualifiait cette évolution d'historique, mais il disait aussi que ça apporterait bien sûr des avantages, mais aussi des charges nouvelles pour tous. Donc il était très clair dans l'esprit de tout le monde qu'il faudrait aider la Grèce, et peut-être que certains ont tenté de tirer profit de cette situation sans peut-être accompagner la Grèce autant qu'il aurait fallu.
Bien, écoutez, la Grèce, c'est un sujet tellement d'actualité qui va encore se poursuivre malheureusement avec des rebondissements, on peut dire, pas permanents, mais vraiment chaque semaine, il y a une évolution d'un côté ou de l'autre.
C'est bien possible.
Oui. Et par conséquent, on aura l'occasion d'en reparler plus longuement. Merci encore d'être venu nous voir et à très bientôt.
À bientôt.
Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.